Radio Kapi.
Merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. À la une, les agents et cadres du secteur de la santé publique ont déclenché hier vendredi un mouvement de grève avec service minimum. C'est pour répondre au mot d'ordre de l'intersyndicale nationale des professionnels de santé à Bougnan. Cependant, difficile de l'obtempérer vu les urgences médicales dues à l'insécurité qui sévit dans la province. Plus de 50 dossiers traités, dont plusieurs prévenus condamnés et une dizaine acquittés. Résultat des audiences foraines organisées par les tribunaux des grandes instances de Kalemie dans les territoires de Moba en province du Tanganyika pendant 10 jours. L'invité de ce midi est Nicolas Prince Baeleyayi, directeur provincial de l'éducation nationale. Il nous fait un état des lieux de la situation de la grève dans son secteur qui comprend la ville de Kalemie, les territoires de Kalemie, Nyunzu et Moba. Bonjour. D'abord cette information. La majorité des Kinois sont restés terrés dans leur maison ce samedi matin. Et pour cause, les eaux des pluies ont envahi les rues, les avenues et les grandes artères de la ville, empêchant ainsi les taxis, taxibus et motos de circuler aisément. Les caniveaux bouchés ne facilitent les ruissellements de ces eaux qui inondent certaines maisons d'habitation. Ce reportage est signé Blaise Ndongala Mayanda.
La pluie qui s'est abattue dans les petites heures de ce matin a tout paralysé dans la capitale congolaise. Les écoles, les marchés, les boutiques, les pharmacies et autres activités sont restées fermées à la suite des eaux ayant inondé plusieurs quartiers de la ville. Même certains de la commune IP de la Gombe ont été touchés. Si certains courageux ont bravé ces eaux stagnantes pour se rendre au lieu de travail, la plupart des Kinois ont préféré rester chez eux pour ne pas prendre beaucoup de risques, surtout celui d'électrocution. Toutes les artères menant vers les centres-villes sont inondées alors qu'elles se trouvent déjà dans un état de délabrement très avancé. Par exemple, les avenues Kabambaré, Bokassa, Kabinda, Croix-Rouge, Triomphale, même les Tuileries, pour ne citer que ça, offrent des images désolantes. Quelques personnes croisées sur les chemins appellent les autorités urbaines à tout faire pour ne pas seulement curer les caniveaux, mais également renforcer la politique d'assainissement à travers la ville.
Dans la province du Kwilu, les agents et cadres du secteur de la santé publique, dont médecins, infirmiers, techniciens des laboratoires, administratifs et autres, ont déclenché ce vendredi 18 octobre 2024 un mouvement de grève avec service minimum. Ils réclament au gouvernement congolais, entre autres, l'amélioration de leurs conditions salariales. À l'issue d'une assemblée générale organisée hier vendredi dans la salle des réunions de l'hôpital général de référence de Bandundu, ces agents de santé ont à l'unanimité voté pour aller en grève, cela pour respecter les mots d'ordre du niveau national. Docteur Rachidi Kibaloubou est le président de la coordination de tous les syndicats du secteur de la santé au Kwilu. Il est au micro de Irène Mbomaluzolo.
Comme vous l'avez constaté ou bien entendu, il y a un grand mouvement de grève dans le secteur de la santé. D'abord, ça a commencé au niveau national, mais ce mouvement-là est aujourd'hui au Kwilu. Tous les cadres et agents de santé de la province du Kwilu sont réunis autour de la coordination du syndicat des secteurs de la santé qui a pris ce mouvement de grève du niveau national pour ramener au niveau provincial comme cela a été demandé. Et aujourd'hui, nous avons réuni tous les agents et cadres de la santé pour lancer ces mouvements-là. Surtout que jusque-là, le gouvernement a invité non syndicalistes, non représentants au niveau national, mais n'a rien fait jusque-là. Comme la grève était déclenchée comme service minimum jusque-là, mais nous vous promettons, si le gouvernement ne réagissait pas dans quelques jours, nous allons durcir cette grève. Donc nous allons quitter les mouvements des services minimum en grève radicale et les portes seront fermées. Bon, les services minimum, c'était pour une semaine, mais là déjà, il nous reste quelques jours. Donc la semaine prochaine, nous allons peut-être durcir les mouvements de grève. Bon, en tout cas, comme corps soignant, c'est malheureux, mais nous déclinons toute responsabilité et le gouvernement doit prendre sa responsabilité à main.
Cependant, à Bougnan, en Ituri, plusieurs structures sanitaires publiques continuent de fonctionner normalement malgré l'appel à la grève lancé il y a 4 jours par l'intersyndicale nationale des professionnels de santé. Bien que les revendications concernant l'alignement des primes de risque et la mécanisation des agents soient soutenues par les soignants, ces derniers restent en service pour répondre aux besoins de la population, en particulier dans une province où l'insécurité exacerbe les urgences médicales. Martial Kizabiamungu a visité quelques établissements, dont l'hôpital général de Bougnan, pour faire le point. Voici son reportage.
À l'hôpital général de Bounia, les activités se poursuivent normalement malgré les mouvements sociaux en cours. Les blocs opératoires restent opérationnels. La pédiatrie continue d'accueillir des enfants malades et les femmes et les soins intensifs prennent en charge les cas les plus graves. Dans la commune de Bounia, au centre de santé de Bakoko, la situation est similaire. Les personnels médicaux y travaillent normalement, garantissant ainsi l'accès aux soins pour la population locale. C'est le même cas au centre de santé de la commune, près de la mairie de Bounia. Ici, bien que conscient des enjeux de la grève, les personnels préfèrent continuer à soigner les nombreux patients en besoin. Les responsables provinciaux de l'intersyndicale des professionnels de santé à Ituri annoncent la tenue prochaine d'une assemblée générale pour déterminer leur position. En attendant, une réponse du gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, où le tribunal de grande instance de Kalemie a clôturé les audiences foraines dans les territoires de Moba hier. Pendant 10 jours, 57 dossiers ont été traités, indique le président du tribunal de grande instance de Kalemie. Le magistrat Papi Bouamana annonce que plusieurs prévenus sont condamnés et une dizaine sont acquittés. Il fait savoir qu'une centaine de dossiers traînent dans différents territoires du Tanganyika et plusieurs détenus attendent d'être jugés. Paulin Munanga.
Un prévenu poursuivi pour assassinat écope de 20 ans de prison. Deux autres poursuivis pour association de malfaiteurs sont aussi condamnés à 20 ans de prison et au paiement des amendes, rapporte le président du tribunal de grande instance de Kalemie. Plusieurs autres prévenus sont condamnés à 10 ans de prison pour des infractions de meurtre, association de malfaiteurs, viol et vol qualifié. Et il y a ceux qui écopent de 5 ans de prison, précise le magistrat Papi Bouamana. Il souligne que 11 prévenus sont acquittés et il y a une dizaine de dossiers dont le tribunal a constaté le décès des différents prévenus. Le président du tribunal de grande instance de Kalemie annonce par ailleurs que des centaines de dossiers traînent dans les territoires des Kongolo, Manono, Nyunzu et Kabalo et le tribunal projette s'y rendre prochainement pour organiser des audiences foraines avec l'appui du PNUD. Pour les procureurs près le tribunal de grande instance de Kalemie, Charles Benjamin Tapale, ces audiences foraines permettent de rapprocher la justice des justiciables et de désengorger les prisons. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a plaidé jeudi dernier pour l'inclusion du cobalt congolais dans la liste 2024 du département de travail des États-Unis d'Amérique. Il a mené ses plaidoyers lors de la table ronde organisée par le Cobalt Institute à l'hôtel Hilton de Kinshasa en présence de nombreux opérateurs du secteur minier, tant public que privé. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette rencontre a porté sur la problématique de l'inclusion du cobalt congolais dans la liste 2024 des biens produits par des enfants ou par les travails forcés établis par les départements du travail américains. À l'issue des échanges, le vice-ministre des Mines s'est dit convaincu que le Cobalt Institute saura porter la voix de la RDC en tenant compte des informations éclairées et des efforts déployés pour assurer les pratiques éthiques et responsables dans l'exploitation du cobalt. Godard Motemona.
Avec cette attitude du département du travail des États-Unis, il vient d'anéantir tous ces efforts que nous avons consentis dans le sens de l'amélioration de la gouvernance et de la traçabilité de nos ressources minières. Je tiens et j'insiste que Cobalt Institute soit notre avocat, si vous voulez, pour que la vérité soit rétablie.
De leur côté, des experts du secteur minier congolais ont estimé que le département américain du travail a pris sa décision sur base d'un cas isolé, ne reflétant pas la réalité générale du secteur minier congolais. Ces discussions ont connu la participation de la chef de division pour la zone africaine du département du travail américain, Chanda Aluka.
Restons à Kinshasa, où l'élaboration du plan de développement local et du budget participatif, ainsi que la décentralisation financière et les suivis des politiques publiques ont été au centre de l'atelier des renforcements de capacités des bourgmestres, des conseillers communaux, chefs de bureaux communaux, membres des comités locaux pour la gouvernance participative et des leaders sociaux des communes de la ville de Kinshasa. Organisé par l'église anglicane au Congo, ces assises de 3 jours, clôturées ce vendredi à Kinshasa, cadre avec les projets de renforcement du dialogue entre les personnalités politico-administratives des bases et leaders sociaux pour une meilleure participation des entités des bases de la ville de Kinshasa. Selon les représentants de l'évêque du diocèse de Kinshasa, de l'église anglicane Mambo Mawaleban, le développement d'une entité est l'affaire de tous, c'est-à-dire les législateurs, l'exécutif et la société civile. D'autres détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Selon ce délégué, ce projet vise à accroître la participation citoyenne à différents niveaux de la gouvernance à travers les trois piliers de développement à la base. Mambo Mawaleban.
L'exécutif, les législateurs et la société civile doivent se retrouver ensemble pour le développement.
Ces assises s'inscrivent également dans la perspective de contribuer à asseoir la démocratie en RDC. Rebecca Kabeya est l'animatrice de ce projet pour la ville de Kinshasa.
Produire le plan local de développement et les budgets participatifs, améliorer la collaboration entre les exécutifs communaux et leurs organes délibérants.
Participante aux travaux, la bourgmestre adjointe de la commune de Kassavubu promet de collaborer désormais avec la société civile. Moswalo Limetebi.
À nous, autorités, de toujours faire participer la société civile à l'élaboration d'un plan local de développement.
Sentiment de satisfaction de la société civile pour la promotion du dialogue et le renforcement de la confiance entre les citoyens. Dorsi Kanza, coordonnateur de la société civile de Ngiri Ngiri.
Nous avons créé déjà un cadre de synergie à partir de cet atelier.
Exécuté par l'Église anglicane du Congo, ce projet est financé par l'Union européenne à travers ses partenaires techniques et financiers, Diakonia et Christian Aid.
La campagne mondiale Octobre Rose, tous unis, même combat, se renouvelle encore ce samedi 19 octobre 2024. Elle vise à mobiliser la population pour la lutte contre les cancers du sein. À Goma, la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de la santé annonce à cette occasion une campagne de dépistage volontaire et gratuit du cancer tant pour les hommes que pour les femmes. Ceci, selon elle, vise à lutter et à éviter les risques liés à cette maladie. Dit et multiforme et mortel. Prisca Luanda Kamala dans cet extrait choisi par Bernard Nyangi.
Comme vous le savez, nous sommes au mois d'octobre, octobre rose. Nous devons sensibiliser les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, de lutter contre le cancer. Et c'est dans ce cadre qu'il y aura une activité qu'on va organiser le 19 octobre, donc c'est samedi, pour faire les dépistages du cancer, que ce soit du côté, comme je l'ai dit tantôt, de l'homme ou de la femme. Nous profitons de ces micros pour appeler toute la population du Nord Kivu, spécialement les femmes, de venir se faire dépister parce que la santé n'a pas de prix. Si on prévient cette maladie, c'est possible et nous appelons toutes les personnes d'aller se faire dépister. Nous allons commencer d'abord par les agents qui travaillent ici au gouvernorat, mais aussi au niveau de la division de la santé. Mais ça concerne tout le monde pour nous rassurer que nous sommes en train de protéger notre population.
Cette campagne de dépistage volontaire, à savoir celle du cancer du sein, se déroulera dans différentes structures de santé. Concernant la clinique Notre Vie située à Katindo, elle sera organisée du 19 au 31 octobre 2024. Au sud Kivu, la Journée mondiale de la contraception a mobilisé les femmes de la commune de Bagira, y compris les épouses des militaires et des policiers. Les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, avec ses partenaires, se sont appesantis sur la nécessité d'équilibrer les naissances. Des produits contraceptifs disponibles pour la circonstance ont servi de matériel didactique pour certaines femmes, tandis que d'autres se sont livrées immédiatement à la pratique sous l'accompagnement des relais communautaires. Jean Kassami est témoin de l'événement.
Quelques femmes ont manifesté l'intérêt de faire usage des produits contraceptifs. L'une d'elles explique pourquoi.
La planification familiale nous aide beaucoup. Nos enfants vont grandir et aussi on va chercher la vie pour nos enfants.
Docteur Deogracias Chigwere, consultant au programme Santé de la reproduction à UNFPA, conseille aux femmes d'appliquer les méthodes contraceptives pour leur propre santé et celle de leurs enfants.
De manière globale, la marge de bienfaits de la planification familiale est de loin supérieure supérieur à ce qu'on peut avoir comme effet secondaire. Avant qu'on administre une méthode, on a fait un examen, on a mesuré les effets secondaires et on connaît comment on peut renverser s'il y a un souci.
Docteur Mugaragaza Robert coordonne le programme santé de la reproduction à la division provinciale de la santé Sud-Kivu.
Lorsqu'une femme contracte une grossesse non planifiée et non désirée, c'est une grossesse qui devient une grossesse à risque. La journée d'aujourd'hui consiste à sensibiliser les femmes en âge de procréer de 14 à 49 ans à accéder aux méthodes contraceptives pour éviter les quatre trous. Les grossesses trop précoces, les grossesses trop rapprochées, les grossesses trop nombreuses et les grossesses trop tardives.
Les stocks de kits contraceptifs disponibles vont servir les femmes qui les désirent durant cette période de campagne de sensibilisation aux méthodes de contraception. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la ville de Bounia, en Ituri, accéder aux cabines des véhicules de voyage sur les différents parkings assurant le trafic routier à l'intérieur de la province s'apparente à un véritable parcours du combattant. Le receveur, souvent sans gilet d'identification, se dispute les clients sur la route, que ce soit lorsque ces derniers sont à moto. Cette situation débouche parfois sur des bagarres, des calomnies et la perte d'objets de valeur pour les passagers. Notre stagiaire Nelly Kataka a été témoin de cette scène au parking du rond-point Fina. Voici son reportage.
C'est dans une atmosphère de bousculade et de tracasserie que de nombreux passagers s'y rendent aux différents parkings des voyages dans les centres-villes de Bounia. Certains clients sont parfois agressés par les receveurs et conducteurs des véhicules qui se précipitent pour remplir les voitures et partir en premier. D'autres sont même arrachés de leur moto avant d'embarquer, perdant ainsi leurs objets de valeur. Un passager déplore cet acharnement sur les clients qui peut entraîner des accidents.
Cette pratique a beaucoup de conséquences. Ça peut arriver que je tombe, soit mon bébé. Si je porte des bagages fragiles, ils peuvent aussi être détruits. En tout cas, que l'on mette fin à cela.
Certains conducteurs expliquent cette situation par le fait que plusieurs axes de voyage ne sont plus fréquentables en raison de l'insécurité causée par les atrocités des groupes armés en Ituri. L'un d'eux témoigne.
Nous sommes tous coincés à un seul endroit. Nous n'avons que deux axes, Chomia et Mambasa. Nous demandons à nos autorités d'améliorer la situation sécuritaire dans la province. Et là, nous ne pourrons plus nous arracher des clients.
Les habitants demandent aux responsables des parkings ainsi qu'au maire de la ville de bien réglementer cette situation. Bounia, Nelly Kataka, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Tchad, les élections législatives et locales sont maintenues au 29 décembre. Beaucoup s'attendaient à un report de ces scrutins, mais le président Mahamat Idriss Déby a finalement convoqué hier le chef des partis politiques pour leur annoncer le maintien des élections législatives et locales au 29 décembre prochain. Les phénomènes des inondations n'affectent en rien les déroulés du processus. D'une phrase, Mahamat Idriss Déby a douché les espoirs de nombreux acteurs politiques. Ceux-ci espéraient un report des scrutins législatifs et locaux suite aux inondations qui ont déjà fait près de 600 morts, près de 2 millions de sinistrés et qui paralysent une bonne partie du Tchad.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Nicolas Prince Baeleyaï. Il est le directeur provincial de l'éducation nationale. Il nous fait un état des lieux de la situation de la grève dans son secteur qui comprend la ville de Kalemi, les territoires de Kalemi, Nyunzu et Moba. D'après lui, 98% des écoles de la province éducationnelle Tanganyika 1 sont à ce jour opérationnelles. Nicolas Prince Baeleyaï s'entretient ici avec Paulin Munanga. Suivez.
Monsieur le prophète de Nicolas Prince Baeleyaï, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel état de la situation faites-vous de la grève qui a été décrétée par les syndicats des enseignants dans votre secteur qui est la province éducationnelle Tanganyika 1?
Par rapport à la situation du début du mois de décembre, il y a une nette amélioration, parce que vous le savez d'ailleurs, on a commencé très timidement suite aux multiples appels à la grève par le syndicat des enseignants, appels qui ont été partiellement suivis, parce que déjà au début, il y avait beaucoup d'écoles qui avaient repris le chemin de l'école en dépit de ces appels à la grève. Alors, progressivement, nous avons commencé à constater une amélioration des gens qui étaient en grève mais qui ont repris. Beaucoup ont repris d'ailleurs. Et à ces jours-ci, la situation se présente de la manière suivante. La province éducationnelle Tanganyika 1 compte 1405 écoles. Et aujourd'hui, sont opérationnelles 1379 écoles.
Du primaire ou du secondaire?
Toutes les écoles mises ensemble. Nous verrons la situation des écoles primaires publiques tout à l'heure. Et cela représente 98% des écoles qui sont opérationnelles sur l'ensemble de ma province, dont la province éducationnelle Tanganyika 1. Si nous allons voir du côté des effectifs élèves, nous scolarisons au Tanganyika 1 407 723 élèves et à ce jour se retrouvent à l'école dans les salles de classe 372 661 élèves, ce qui représente 91% d'élèves qui sont dans les salles de classe aujourd'hui.
Et qu'en est-il du nombre des enseignants qui sont en train de prester pour le moment?
Nous gérons dans la province du Tanganyika 1 10 786 enseignants. Mais ceux qui travaillent aujourd'hui sont au nombre de 10 010 enseignants. Ça représente donc 98%.
Et quels sont les 2% des enseignants qui refusent jusqu'à présent de reprendre les activités scolaires?
Cela n'est un secret pour personne. Jusque-là, tous les syndicats ont accepté de suspendre la grève. Ils ont compris que nous devons mettre en avant l'intérêt de l'enfant congolais. Mais il y a un seul syndicat qui traîne encore les pas. Je sais que bientôt là, les choses vont basculer vers le positif. C'est le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques.
Le CNPP.
Le CNPP, qui n'a pas encore suspendu ou levé son mot d'ordre de grève, et par exemple ici à Kalemie, surtout, parce que c'est ici où se trouve l'épicentre de la grève dans les écoles primaires publiques. Selon la liste que nous avons reçue hier de la part des sous-divisions de la ville, nous pouvons dénombrer 57 écoles primaires public qui n'ont pas encore ouvert les portes, ce qui constitue un problème sérieux, parce que vous savez que les écoles publiques primaires sont au cœur de la politique de la gratuité de l'enseignement, la politique phare de son Excellence Monsieur le Président de la République, et donc ça nous fait énormément mal. C'est pourquoi nous continuons à nous impliquer dans les dialogues avec les partenaires syndicats, et nous sommes déjà en dehors du cadre légal. Il n'y a jamais eu de grève à durée indéterminée.
Ils sont en grève depuis plus d'un mois maintenant et les élèves sont sacrifiés.
C'est une situation anormale que nous décrions, que nous déplorons d'ailleurs. L'autre fois, on était avec les amis de syndicat, en dialogue, en discussion ici. Je vais encore le rappeler parce qu'il ne faut pas que ça continue à durer comme ça, parce qu'à un certain moment, on va être excédé.
Ils seront sanctionnés.
Je ne dis pas ça, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais le gouvernement a le pouvoir de réguler la situation. Lorsqu'on se retrouve en dehors du cadre légal, je crois que ce n'est plus le partenariat.
En dehors du cadre légal, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire en dehors de toute procédure syndicale. On ne peut pas mener une grève au-delà de 30 jours, de 45, ça n'existe nulle part. La grève, c'est un moyen, bien sûr, légal de pression sur l'employeur, mais on ne peut pas se servir de la grève pour procéder à une politique de terre brûlée. On ne peut pas tuer la République parce qu'on revendique ses droits. Il faut voir aussi les droits de l'enfant. Il faut quand même regarder sur le rétroviseur, se dire non, bien sûr, on a déjà adressé le message et l'employeur est au courant.
Monsieur le prophète Nicolas Prince Baeleai, je vous remercie.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information de la mi-journée sur Radio Kapi. Merci à Dieudonné Nyangasawa Nyangasa de l'avoir mise en onde sous la supervision et coordination de Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalulambombo, c'est moi à la présentation. Retrouvez à partir des 13h, heure de Kinshasa, Noëlla Luzitu-Kabambi pour la suite d'informations sur Radio Kapi. Merci à vous de nous avoir prêté oreille attentive.